Bienvenue. Aujourd'hui, on explore des extraits d'un roman assez particulier, La princesse d'Austrasia. C'est une uchronie, donc une histoire alternative.
Oui, une histoire où le passé a pris un chemin différent.
Et on suit un Français, Henri de Gervin, qui voyage dans un pays qui n'existe pas dans notre réalité, l'Austrasia.
Exactement, un État indépendant né sur les cendres de l'Alsace-Lorraine, l'ancien Reichsland.
Il y va pour le travail, mais il y a aussi des raisons plus personnelles, n'est-ce pas ? Liées à sa famille, à un projet de livre.
Tout à fait. Ces extraits nous donnent un aperçu fascinant de ce qui aurait pu se passer. L'Austrasia elle-même, née en 1923, ça change déjà beaucoup de choses entre la France et l'Allemagne.
Mais ça ne s'arrête pas là, si je comprends bien. Ça touche aussi la Première Guerre mondiale, la Révolution russe.
Oui, même le destin de personnages historiques connus est différent. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cet univers alternatif, de voir les éléments clés et les intrigues qui se dessinent.
Très bien, alors commençons par l'Austrasia elle-même. C'est quoi cet état éteint ? On sent une position un peu compliquée, non ?
Ah oui, très. Prise entre la France et l'Allemagne, les textes parlent de ménager la chèvre française et le chou allemand. C'est assez parlant.
On imagine. Une sorte d'équilibre constant.
C'est ça. Et ce qui est frappant, c'est le contraste. D'un côté, cette tension politique, on le voit avec les travailleurs frontaliers de Nancy, par exemple, et de l'autre...
Une technologie étonnamment avancée. J'ai noté les voitures électriques silencieuses.
Oui, avec une pile à combustible développée localement à Mazières, et même des avions à décollage vertical pour Luftostrasia.
C'est fou pour l'époque, hein ? Comment un si petit état ?
Ben, justement, peut-être que cette pression géopolitique a poussé à l'innovation, qui sait ? C'est une des beautés de l'Uchronie. Imaginez ces liens de cause à effet différents.
Même les symboles sont intéressants, comme ce mémorial de l'indépendance.
Oui, avec la statue de la princesse Austrasia. Inspiré de Klimt, mais réalisé par des Autrichiens parce qu'Arno Breker, le sculpteur allemand bien connu plus tard dans notre histoire, avait refusé. Ça en dit long déjà.
Et au milieu de tout ça, on a notre protagoniste, Henri, surnommé le Baron. Il n'est pas là que pour vendre des champignons, hein.
Non, non. Il y a la mission commerciale, oui, des contrats en Russie aussi, mais il cherche surtout un éditeur pour son propre roman.
Ah, et son roman, c'est aussi une uchronie, c'est ça ?
Exactement. Et c'est là que ça devient assez ironique. Son livre décrit une Première Guerre mondiale qui aurait commencé différemment.
Comment ça ?
Suite à l'assassinat réussi de l'archiduc François Ferdinand. Alors que dans la réalité de ce livre, celle où vit Henri, l'attentat a échoué.
Et attendez, le plus drôle, c'est que...
Bah oui, les éditeurs le refusent. Volkov à Petrograd, Parej à Metz, Fourniret à Paris. Tous disent que ça manque de vraisemblance historique.
Un auteur d'uchronie, dans un monde uchronique, qui se fait caler pour manque de réalisme historique. C'est savoureux.
Tout à fait. Ça interroge notre propre rapport à ce qui semble possible ou pas en histoire.
D'autant plus qu'Henri, lui, il n'est pas tranquille. Il est surveillé, hein.
Ah oui, clairement. Les services de sécurité austrasiens, un certain Ludmann, Hansinger, ils le soupçonnent d'être un espion industriel.
Le baron est logé, comme ils disent. Il récupère ses notes.
Dans la poubelle, oui. Une serviette volée puis rendue, il est vraiment dans leur collimateur.
Et dans ce jeu d'ombre, il y a une femme, Bruno de Gournay. Personnage intrigant.
Très. Artiste, créatrice, mais visiblement liée à Ludmann, au service secret. Elle a un passé trouble lié à une autre affaire d'espionnage avant.
Une affaire d'avion, c'est ça ?
Drahé.
Un stagiaire allemand.
Oui, et un ingénieur Beaumont. Et sa relation avec Henri est... bah, ambiguë. Elle l'aide, mais elle en forme Ludmann aussi. C'est complexe.
L'histoire personnelle d'Henri se mêle aussi à la grande histoire. Avec sa famille.
Absolument. Via le journal retrouvé de sa grand-tante, Anna, partie en Russie comme préceptrice en 1914.
Et son journal raconte une révolution russe différente de la nôtre.
Ouais. Et il vit la révolution. Une relation avec un certain Fédor. Puis la déportation en Sibérie, au camp 34. Sa survie, son retour tardif. C'est très touchant de voir l'impact de l'Uchronie à l'échelle individuelle.
Ça nous amène au contexte plus large. La Russie, l'Allemagne, tout est différent.
En grande partie. En Russie, Oulianov Lénine, pour nous, prend le pouvoir, mais meurt en déportation. Kerensky reste peut-être plus longtemps. Djougachvili, Staline, n'est qu'un bandit nommé Koba.
Et Hitler ?
Alors lui, c'est fascinant. C'est un artiste dont les œuvres sont exposées à Metz. Mais il est aussi mêlé à un putsch raté à Munich en 23. La Bavière devient même indépendante après une défaite allemande.
Incroyable ! Ça redessine complètement la carte et les forces en présence au XXe siècle.
Exactement. Et on voit bien ce contraste permanent dans l'Austrasia. Cette technologie de pointe à côté des vieilles fortifications, des tensions qui rappellent un passé européen chargé.
Les cauchemars d'Henri aussi semblent importants. Liés à son roman, à Verdun, peut-être.
C'est suggéré, oui. Une violence sous-jacente qui affleure. Et puis, il y a tous ces petits détails qui rendent l'univers crédible.
Comme les discussions au salon de coiffure sur l'art Hitler contre Picasso, Solange Bertrand ou la mention des pieds noirs réfugiés d'Algérie.
Oui, ça suggère une autre histoire coloniale aussi. Et le mélange des langues, français, allemand, dialecte, tout ça crée une ambiance très particulière.
Donc pour résumer un peu, on a la quête d'Henri, personnelle et littéraire, l'énigme de cette Austrasia, à la fois fragile et en avance, et puis tous ces destins modifiés par une histoire qui a bifurqué.
C'est ça. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Ce roman qu'écrit Henri, celui que tout le monde trouve invraisemblable.
Oui.
Est-ce que ce n'est qu'une fiction dans ce monde-là? Ou est-ce que, à travers ses cauchemars, son écriture, il touche à quelque chose de plus profond sur l'histoire, sur ce qui aurait pu être ou ce qui est peut-être vrai à un autre niveau?
Ou plus simplement, qu'est-ce qui va se passer pour lui et Bruno? Pris entre la création, les secrets d'État, cette attirance, leur histoire à eux aussi est à la croisée des chemins.
Absolument. Beaucoup de pistes ouvertes. De quoi réfléchir en effet.